prie pour lui. Seigneur, je te prie vraiment de bénir Benjamin, Seigneur, ton fidèle serviteur, Seigneur, merci, qui est en formation aussi avec l'église de Rosset et qui travaille déjà très activement, Seigneur, au niveau de la jeunesse, tant au niveau national que international avec Jesus Revolution. Merci pour tout ce que tu lui permets de faire, tous ses voyages, tout ce qu'il permet, tout ce que tu lui as permis d'accomplir et de voir et de connaître et de manifester dans son ministère. Merci, Père, tu vas encore continuer à faire des choses plus grandes, des choses extraordinaires. Tu bénis son don, tu bénis son physique, tu bénis sa vie, Seigneur. Tu le conduis. Merci, tu réponds à ses besoins, tu agis avec puissance dans sa vie. Et merci pour l'action de ton esprit dans sa vie, parce que tu as préparé quelque chose pour nous tous, une parole appropriée. Merci, Seigneur, de le bénir et de bénir ta parole dans son cœur et dans sa bouche. Merci, Seigneur. Amen.
Amen. Amen. Merci. Amen. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis vraiment heureux d'être avec vous ce dimanche matin. Je vais prendre un petit peu de temps pour m'installer. Voilà. Je reviens de quelques voyages cette semaine. J'étais en France, voir un ami. Et je suis ensuite parti en Norvège avec Clémentine, où je l'ai vu pouvoir s'installer avec le ministère Jésus Révolution, comme Pascal l'a partagé. Elle a donc passé ici un an à servir dans ce ministère-là en tant que missionnaire. Il y a une partie de formation, évidemment, mais aussi une partie pratique qui est très importante, parce que Dieu a la capacité de nous former alors que nous apprenons. Et si on y réfléchit, eh bien l'apprentissage ne finit vraiment jamais, il dure toute la vie. Amen. On est content d'apprendre. Moi, je voudrais bien vous parler ce matin d'une nouvelle vision pour la Belgique, une vision où on peut voir une foule de jeunes gens qui viennent servir Dieu en esprit en vérité, qui le louent en esprit en vérité. Je pense que Dieu est en train de faire quelque chose au niveau spirituel, au niveau des cœurs des jeunes gens, pour pouvoir vraiment amener le réveil qu'il a envie de voir en Belgique. La dernière fois que j'ai prêché ici, j'ai parlé de pouvoir être des mères et des pères spirituels pour la jeunesse. Et je suis fermement convaincu que Dieu veut utiliser la génération qui vient pour changer le pays. Amen. Pour être vraiment le réceptacle d'une nouvelle vague de réveil. Alors que je commence ici, ça fait quelques mois que je suis un peu sur des séries par rapport à la jeunesse. Et il est possible que certains d'entre vous viennent me voir et me disent « Benjamin, c'est gentil, tu prêches sur les jeunes, mais je ne me sens plus si jeune, alors qu'est-ce qui reste pour moi ?» Mais je voulais vous dire qu'on est tous jeunes spirituellement. Alors les choses que je dis là, elles s'appliquent pour tout le monde. Moi, je pense que le réveil est là. En tout cas, tous les ingrédients du réveil, ils sont là. Mais il faut qu'on puisse entrer, il faut qu'on puisse devenir des gens qui peuvent saisir ces réalités spirituelles et les amener à se manifester, les réalités spirituelles qui nous entourent. Je suis convaincu que Dieu a le désir de faire quelque chose, mais il faut juste que des gens puissent saisir l'occasion. Pour qu'on puisse saisir le réveil, on doit avancer vers ce que Dieu veut nous donner. Malgré les luttes, malgré les difficultés, nous devons avancer. Ça fait quelques semaines que j'écoute un apologète qui s'appelle le docteur Ravi Zacharias. C'est un Indien qui a connu Jésus alors qu'il était dans une période de dépression assez importante. Il est né en Inde dans une société absolument religieuse au niveau de... La plupart d'entre eux sont hindous. Donc, c'est-à-dire qu'il existe 350 millions de dieux, mais il a rencontré Jésus d'une façon puissante et il a fait le choix de pouvoir répondre à toute question sur sa foi, sur le christianisme. Donc, il a fait beaucoup d'études, il a plusieurs doctorats, il a fait plusieurs discours au niveau des grandes universités athées de ce monde, de Harvard à Oxford, tout ce que vous voulez. Il a été dans ces universités-là et il a défendu le point de vue que Christ est la solution pour l'humanité, que Jésus est la solution. On peut voir son appel et son cœur d'évangéliste. À la fin de chacune de ses adresses plutôt académiques, il rappelle aux gens que la chose la plus importante, c'est que eux puissent rencontrer Jésus, et il invite tout le monde à faire de même. Je suis toujours impressionné de voir comment Dieu peut utiliser nos vies de façon pratique pour avoir un impact sur la société. Un peu plus tôt dans la semaine, j'étais, comme je disais, dans quelques pays, j'étais en France, pour un ami qui s'appelle Adam, où il va commencer des études de médecine. Et ça fait plus ou moins quelques mois qu'on parle de « Est-ce que je peux avoir la capacité d'être chrétien et de faire un travail qui n'est pas dans l'Église, est-ce que ça diminue ma valeur en tant que chrétien? Parfois, on peut imaginer que la position du pupitre est la position que tout le monde doit chercher. Je suis entièrement pas d'accord avec ça. Moi, je crois que le plus grand impact qu'on peut avoir, c'est là où on travaille, là où les gens étudient. C'est vraiment là où il y a un impact qui peut se faire. Et je suis content de voir que maintenant cet ami Adam là, il veut être à 100% chirurgien, c'est son désir, c'est son rêve d'être chirurgien, mais il veut aussi être à 100% chrétien. Et il n'y a pas de contradiction entre ces deux choses-là. Il ne doit pas choisir soit je sers Dieu, soit je suis chirurgien. Il va être un chirurgien qui sert Dieu. Amen. Amen. Ça me fait plaisir, moi, ça. Vision de l'année de la jeunesse pour cette année. On parlait un peu plus tôt par email avec Pascal cette semaine. On parlait de la vision pour la jeunesse. Comme vous savez, il y a eu une réunion hier soir et on parlait de vraiment pouvoir développer une attitude de service dans les choses qu'on fait. Est-ce que lorsqu'on vient à l'église, on est habité du désir de vouloir servir ou plutôt d'être servi? C'est le thème de la prédication d'aujourd'hui. Pour moi, souvent, on est tellement habitué à être servi des choses. Je ne vais pas nommer une chaîne de restaurant qui est très célèbre au niveau du fast-food. Je ne vais pas la nommer, mais lorsqu'on arrive là-bas, on est servi assez rapidement. C'est chronométré. Il faut être servi en certain nombre de temps. Si la nourriture est trop vieille, on la jette, on en fait une nouvelle. Tout est calculé pour que nos désirs viennent être remplis d'une façon optimum. Pour pas qu'on puisse agir un peu par pulsion, en fait. C'est ça, en fait. J'ai faim, j'ai à manger tout de suite. Et il est vrai que parfois, même dans les moments de louange, on a un petit peu cette même attitude, ok. Moi, j'ai grandi dans une église internationale qui s'appelle le Christian Center quand j'étais adolescent. Et tous les dimanches, j'avais un groupe de louange complet. Quand je dis complet, c'était batterie, guitare électrique, piano, synthé, des chanteurs, une chorale. Et quand on entrait dans ces moments-là, on entend la musique, il y a tout le monde qui est dedans. C'est très facile d'entrer dans un moment de louange. Et puis, je me rappelle, dans ma chambre avec une guitare, parce que je suis capable d'entrer dans des louanges aussi profondes. Et il faut être un peu, devenir proactif dans notre louange, être dans une attitude où moi, c'est mon cœur qui se met dans une attitude de louange. Je ne vais pas attendre qu'on vienne me servir la louange. Et à ce même titre, parfois dans l'église, on attend un petit peu d'être servi. Mais je voudrais bien voir ce que la parole nous dit par rapport au service. On ne doit pas être motivé par le désir d'être servi, de diriger pour être honoré, pour recevoir des louanges. Mais la parole nous appelle à être des serviteurs. La parole nous inspire à pouvoir avancer avec Jésus en suivant son exemple de serviteur ultime jusqu'à la mort de nous-mêmes. Le « de nous-mêmes » est très important. Puisque si Jésus est mort, c'est pourquoi on ne doit pas mourir, mais on doit mourir à nous-mêmes. On doit nourrir à nos désirs égoïstes, on doit mourir à nos désirs égoïstes, on doit mourir à nos désirs qui empêchent l'amour de Dieu d'être exprimé. Et le premier point que j'aurais bien faire, c'est que tous les chrétiens sont appelés à être des serviteurs. Peu importe l'appel que Dieu nous a donné, que ce soit spécifique, ou plutôt un appel général, mais tous les chrétiens sont appelés à être des disciples qui sont des serviteurs. Jésus nous appelle à mourir à nous-mêmes pour être des enfants de Dieu. On peut voir ça dans Matthieu au chapitre 17. Je vous invite à prendre ce texte-là. Matthieu au chapitre 17. À partir du verset 1 jusqu'au verset 4. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit-enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. » On peut voir Jésus qui commence un petit peu cette description du serviteur. Il dit à tous ces hommes qui considéraient un peu l'enfance comme le moment où on ne doit rien confier, il dit « Si vous voulez devenir des gens qui rentrent dans mon royaume, qui vivent ce royaume-là, il faut appliquer les principes de vie des petits-enfants. » Ça peut être un petit peu choquant de voir qu'après toutes les années d'expérience que la vie nous donne, on doit revenir à un âge d'enfance. Mais Jésus ne parle pas dans la maturité, mais bien dans la façon dont un enfant, il appréhende le monde. Le monde pour un enfant est quelque chose d'absolument simple. Il y a moi, il y a les autres et il y a Dieu. C'est tout. Il y a rien d'autre, c'est pas très compliqué. Et un enfant est toujours sublimé par rapport à ses émotions. C'est-à-dire que ses émotions, elles sont toujours très simples. Je t'aime, je ne t'aime pas. C'est un petit peu une espèce de simplicité qui est très rafraîchissante quand on peut l'adopter comme principe pour devenir un serviteur. C'est-à-dire qu'on va se, 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 On va se prendre un petit peu moins au sérieux et on va laisser tomber toutes ces choses qui nous font un petit peu porter des vêtements un petit peu trop grands et on va revenir aux choses simples telles que l'évangile tel qu'on l'a entendu la première fois. Romains, un autre texte, c'est Romains 8, Romains chapitre 8, versets 5 à 8. En effet, ceux qui se conforment à leur nature propre se préoccupent des réalités de la nature humaine, tandis que ceux qui se conforment à l'esprit sont préoccupés par ce qui est de l'esprit. De fait, la nature tend vers la mort, tandis que l'esprit tend vers la vie et la paix. En effet, la nature humaine tend à la révolte contre Dieu parce qu'elle ne soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle n'est même pas capable. Or, ceux qui sont animés par leur nature propre ne peuvent pas plaire à Dieu. Si on garde notre esprit basé sur les choses charnelles, on ne peut pas devenir un serviteur de Dieu. Parce que pour devenir un serviteur de Dieu, il faut avoir envie d'accomplir sa volonté. Et il y a une partie en nous, c'est vrai, qui n'a pas envie de voir la volonté de Dieu accomplie. Je me rappelle un prédicateur qui donnait une image récemment, je l'ai entendu avant-hier, il s'appelle Stéphane, il est pasteur d'une église à Oslo. Il disait, moi parfois je vois nos vies comme une grande maison, une très très grande maison. Et Jésus est invité dans cette maison-là, et il visite avec nous la maison. Et puis on arrive à une porte, et la porte elle est fermée. Et on dit à Jésus, écoute là, tu peux pas rentrer. Jésus dit, ah mais attends, c'est dommage, tu m'as donné toute la maison, et cette maison, cette partie-là, je ne peux pas l'utiliser. Et puis, comme ça, on peut voir qu'il y a certaines parties de nos vies qu'on a, on a encore envie de garder à nous-mêmes, parce que ça nous fait pas plaisir de tout donner. On a envie de garder un petit peu de contrôle, un petit peu de choses pour nous. Mais la parole de Dieu nous encourage à pouvoir nous confirmer, à pouvoir abandonner tout ce qui préoccupe nos réalités humaines, à tout ce qui alimente notre chair. Pourquoi est-ce que la parole de Dieu dit ça? C'est parce que si on commence à nourrir notre chair, il y a de plus en plus de pièces qui se ferment dans la maison qu'est notre âme. Et on commence à retirer de Dieu d'un peu toutes les pièces. C'est tout à fait subtil, hein. Ça se passe pas en un instant comme ça. Et puis on se rend compte qu'en fait, Jésus, il est seulement dans le couloir chez nous et puis c'est tout. Il peut pas monter, il peut pas aller dans je sais pas moi, la pièce de nos relations, il peut pas aller dans la pièce de notre argent, il ne peut pas aller dans la pièce de notre futur, il peut juste rester dans le couloir et donner son avis et peut-être je l'écouterai. Mais la parole de Dieu nous dit que si on renouvelle notre intelligence, si on vient vraiment renouveler au pied de la croix chaque jour, si on alimente cette relation-là au lieu d'alimenter le désir humain, il n'y aura aucun mal à ouvrir nos pièces. Parce qu'on sera toujours dans ces réalités du royaume de Dieu, de pouvoir alimenter notre intelligence à voir qui est Dieu. Ces choses-là, je ne pense pas que je devrais pointer des choses spécifiques. Bien sûr, il y a des généralités, mais je pense que dans nos cœurs, on sait ce que on a du mal à donner à Dieu. Ça peut être notre futur, ça peut être, je sais pas moi, un conjoint potentiel, ça peut être des choses au travail, une attitude, se mettre en colère trop rapidement. Ça peut être des choses vraiment simples. Mais il y a des choses qu'on n'a pas envie de donner à Dieu. Et moi, je veux dire qu'aujourd'hui, on va lui donner. On va pouvoir faire ce changement où on dit, ok, moi j'ai du mal avec ça, mais je vais pouvoir te le donner, Jésus. C'est marrant, je parlais à une jeune que j'ai été visiter en Suède la semaine passée, et elle m'expliquait que je lui envoie un message, je dis je prie pour toi ces temps-ci, je voulais juste m'encourager, et puis elle me dit ah mais t'inquiète pas, aujourd'hui on est dimanche, donc ton message ne me donne pas de la pression de vouloir être meilleur, donc tout va bien. Cette fille, elle a un sentiment qu'elle est pas assez bien, qu'elle est pas assez bien pour Dieu, qu'elle est pas assez bien pour servir Dieu. Et parfois je me dis qu'on ne comprend pas vraiment qu'est-ce que Dieu il a fait à la croix quand j'entends ce genre de discours-là. Parce que c'est pas vraiment notre responsabilité de nous changer. Nous, notre responsabilité, c'est d'aller vers Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui va nous changer. Amen. Amen. Alors parfois, on se retrouve devant toutes nos pièces fermées dans notre maison et on dit, oulala, comment est-ce que je vais pouvoir ouvrir celle-là? J'ai mis 5 cadenas et 2 chaînes. Je sais pas comment Jésus il va rentrer. Puis Jésus il dit, ouvre. Et je dis, je sais pas, j'y arrive pas, c'est pas possible. J'arrive pas à te le donner. Et puis on se rend compte que il suffit de donner les clés et Jésus va faire le reste. Amen. Je donne souvent cette image par rapport à notre maison. Moi je dis souvent que quand Dieu demande de nettoyer notre vie, c'est comme quand on va à la cave avec lui. Et on pourrait aller dans le garage, la pièce où on a mis. On a tous une pièce dans la maison où c'est une pièce qui sert à stocker les choses. Et c'est toujours la pièce qu'on se dit qu'on va ranger un jour et qu'on n'a encore jamais rangée. Je ne sais pas si vous avez ça chez vous. Mais c'est toujours la pièce où si on entre et on allume la lumière, on est là, oulala, tout ce que j'ai oublié de ranger. Voilà. Mais le Saint-Esprit, il fait pas ça avec nous. Il nous donne une lampe de poche qui est la parole et il dit, ok, viens, on va à la cave. Elle dit, n'allume pas la lumière, fais-moi confiance. Et puis il dit, allez, pointe ta lumière, fais deux pas à droite, trois pas à gauche, et pointe la lumière là. Allume-la. On allume notre lampe de poche et là on voit une caisse qu'il faut ranger. Et il dit, ça tu dois ranger maintenant, c'est le moment. Et puis on range la caisse, comme c'est une caisse, ça va, c'est pas trop dur. Il dit, ok, éteins la lampe maintenant. Fais deux pas en arrière, trois pas à gauche, et allume ta lampe. On la rallume. Et il dit, maintenant c'est ça que tu dois ranger, c'est ça dont tu dois t'occuper. C'est pas une preuve d'amour suprême de la part de Dieu que il fait les choses à notre temps, un pas à la fois, il nous accompagne à faire les choses. Tout ça, on peut voir que la parole nous dit qu'on est appelé à être des serviteurs, mais si on se demande un peu, ça veut dire quoi être un serviteur? C'est quelqu'un qui s'humilie et qui met le soin des autres devant le sien. Quelqu'un qui prend le besoin des autres avant le sien. C'est quelque chose de très beau à voir. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré des gens qui ont investi dans votre vie et vous savez qu'ils voulaient votre bien. Vous sentiez que dans leurs paroles, ils pensaient à votre bien, parfois même à votre insu. Moi, je trouve, j'ai deux, trois personnes dans ma vie qui ont fait ça et je trouve que c'est toujours rafraîchissant d'avoir des gens comme ça dans notre vie. Où ils travaillent pour notre bien. Ils travaillent pour notre bien parfois malgré nous. Moi, je pense que quand on a des gens comme ça dans nos vies, il faut s'accrocher et il faut devenir quelqu'un comme ça pour les autres. Être un serviteur, c'est quelqu'un qui s'humilie et qui met le soin des autres devant les siens. C'est perdre sa vie pour Dieu ou pour les autres. Et quand je dis perdre sa vie, je veux dire une mort spirituelle. C'est-à-dire que mes désirs charnels, je ne vais pas les nourrir pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu. C'est ça un serviteur. C'est quelqu'un qui voit ses besoins, les besoins de la personne qui sert avant l'autre. La parole de Dieu nous dit qu'on est tous serviteurs de quelque chose. On est tous serviteurs de quelque chose à la fin. On peut se mentir à nous-mêmes, mais soit on sert soi-même, soit on sert l'ennemi, soit on sert Dieu. C'est facile à voir. Il y a les banques aujourd'hui, elles font un truc qui s'appelle l'état de nos cœurs. L'état de nos cœurs, c'est très facile à voir. On appelle ça les extraits de compte. Vous allez à la banque, vous demandez l'état de vos extraits de compte, et ça va vous donner l'état de votre cœur. Vous regardez, 200 euros pour ceci, 300 euros pour cela, 400 euros pour ceci. Et là, on peut voir un extrait de nos cœurs. Moi, je trouve ça formidable que les banques pensent à nos valeurs morales et à nos vies. C'est intéressant, non, pour nous. Et on peut se dire, ok, dans quoi est-ce que j'ai investi mes richesses ce mois-ci? Jésus définit ce que c'est d'être un serviteur en Jean 13. Il dit ceci, à partir du verset 3. Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de la table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se saignait. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur, et vous, vous êtes purs, mais non pas tous. » Car il connaissait déjà qui allait le livrer, c'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après qu'il eut lavé les pieds de ses disciples, et qu'il eut pris ses vêtements, et se remit à table, et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur, vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le seigneur et le maître, vous donc aussi lavez-vous les pieds les uns des autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Pourvu que vous les pratiquiez. » Jésus nous démontre les actions d'un serviteur en lavant les pieds de ses disciples. Jésus nous démontre l'exemple ultime en sachant qu'on allait avoir du mal à se servir les uns les autres. Elle dit, moi je l'ai fait, alors que moi je ne devais pas le faire. S'il y a bien une personne qui ne devait pas nous laver les pieds, c'était Jésus, le Seigneur et le Maître. Et pourtant, il l'a fait. Alors comment ne pas être inspiré à Jésus qui nous donne l'exemple dans une attitude de service? La Bible appelle tous les chrétiens à être des serviteurs. Elle nous explique ce que veut dire d'être un serviteur. Regardons maintenant les attitudes à avoir, à adopter pour être un serviteur. Le service, c'est une mentalité qu'on adopte. 1 Corinthiens 9, 19 nous dit « Car bien que je sois libre à l'écart de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. » Bien sûr, on peut voir la vie de l'apôtre Paul qui se donne entièrement à son œuvre. Il a décidé d'entrer dans cette mentalité de service. Moi, je sers une cause, je sers Jésus. Il est parfois difficile aujourd'hui de défendre une cause. C'est pas quelque chose qui a beaucoup de succès, de dire « moi, je suis à fond là-dedans ». La seule chose qui marche, c'est si c'est ta passion. Moi, je suis à fond dans le foot. Alors là, ça va, c'est socialement correct. Moi, je suis à fond dans, je ne sais pas moi, tricoter au crochet. On a des passions, mais si je dis « moi, je suis à fond pour Jésus », là, ça devient un discours de foi philosophique. C'est un peu moins bien. Et Paul, il est en train de dire que lui, il s'est rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre d'âmes pour Dieu. Être dans le service, être dans cette mentalité de service, il faut adopter une mentalité de service pour pouvoir servir Dieu. C'est également servir sans attendre rien en retour. Luc 6 nous dit « Donne à quiconque te demande et ne réclame pas de bien à celui qui s'en empare. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites de vous. » Faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous sera-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous sera-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux à qui vous espérez recevoir, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'appareil. Mais aimez-vous vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande et vous aurez fils du Dieu Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. C'est intéressant de voir que Dieu prend l'exemple des gentils et il dit « Aimer ceux qui nous aiment, c'est facile. Prêter à ceux qui vont nous donner quelque chose en retour, c'est facile. » Mais la vraie différence, elle se fait dans « Aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. » Je ne sais pas si vous avez toujours cet ami qui vous demande 5 euros parce qu'il n'a jamais d'argent sur lui. Je ne sais pas si ça arrive, vous avez un ami comme ça. Maintenant, vous savez quand il y a ce sentiment où c'est la 7e fois qu'il vous a demandé 5 euros, et vous savez que les 6 autres fois, il vous a rien rendu. Imaginons d'entrer dans cette mentalité où vous lui donnez 5 euros, et vous décidez au moment où vous lui donnez, je lui donne, en dans votre cœur. Je vous encourage à essayer, parce que quand on fait ça, il n'y a plus aucun truc de retour. Et on peut voir qu'il y a une différence qui se fait, parce que les gens sentent l'amour. Alors ça ne vient pas bloquer notre cœur. J'ai dur à donner. Il m'a jamais rendu. Zut. Non, mais quand on prête, prêtons comme si, et je parle pas juste de l'argent, mais prêtons comme si on n'attendait rien en retour. C'est comme si on donnait, en fait. Aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Voilà un principe à adopter pour être un serviteur. C'est une mentalité qu'on adopte, c'est servir sans rien attendre en retour, c'est dénuer d'égoïsme. Philippiens 2 dit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existait en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égale avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il s'est humilié en devenant comme un simple homme, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire du Père. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » La parole de Dieu, c'est vraiment cette lampe de poche. Elle a toujours le don d'éclairer là où ça fait mal. Être un serviteur, ça veut dire ne rien faire par esprit de parti ou par vaine gloire. Combien de fois dans nos vies, on ne fait pas quelque chose par esprit de parti ou par vaine gloire? Parce que ça va alimenter nos propres intérêts, que ce soit dans l'église ou hors de l'église. C'est mettre les gens en premier. Romains 12, 10, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque. Là, c'est Paul qui encourage l'église aux Romains de pouvoir faire preuve d'affection les uns pour les autres, d'être prévenant les uns avec les autres. Être prévenant, c'est anticiper le besoin de quelqu'un avant même qu'il l'exprime. C'est beau ça, non? Et tout ce service-là, tout ce que je cite, on a l'impression que ça va nous coûter énormément. On a l'impression que on se fait arnaquer dans l'histoire un petit peu. Mais si je donne tout ça, moi, j'ai plus rien. Si je donne tout ça, moi, je vais être vide. Eh bien non. Notre relation avec Dieu et les gens doit être marquée par cette attitude de service, parce qu'on copie l'attitude de notre maître. Jésus a été jusqu'à la croix, il a servi et il a été élevé jusqu'à la perfection. On peut se rendre compte qu'avec cette attitude de service, là où le monde penserait qu'on n'aurait plus rien, on reçoit tout. C'est quand même quelque chose de magnifique. Moi, je suis certain que si on met ces choses-là en pratique, on peut voir dans nos vies que, alors qu'on pensait donner tout, on a tout reçu. Je parlais à quelqu'un hier qui me disait, quand j'aide les gens, je me sens mieux. C'est marrant, ça. Quand on aide les gens, ça devrait nous coûter quelque chose. Ça devrait nous coûter quelque chose. Et pourtant, on est nourri par rapport à ça. Ça nous nourrit. Moi, je me rappelle très bien, j'avais pris un groupe de jeunes une fois, à Bruxelles, dans une église du pasteur, c'est Laken. Quelqu'un connaît le pasteur de Laken? Oui, Claude Lefebvre, merci. L'église du pasteur Claude Lefebvre, il a quelqu'un dans son église qui a un ministère envers les sans-abri. Tous les samedis à la gare de midi, ils nourrissent les sans-abri, il y a 100-200 personnes. C'est vraiment énorme. Et j'ai amené le groupe de jeunes là-bas, et je pensais que ça allait leur coûter quelque chose. J'avais une vingtaine d'années, c'était le groupe de jeunes Christian Center. Et là, j'ai jamais vu le groupe de jeunes avec autant d'amour. J'ai jamais vu ça prendre place. Alors qu'ils étaient en train de servir, tous ces sans-abri, je les ai vus revenir comme s'ils avaient reçu une richesse extraordinaire. J'ai vu des jeunes rire, sourire, s'amuser. C'était beau à voir. Jésus, il était jusqu'à la croix en tant que serviteur et il fut élevé à la perfection. La voie vers la véritable élévation, c'est le service. Matthieu 23, verset 8, il dit « Mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. » Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. On peut voir que les réalités du royaume de Dieu, elles sont totalement à l'opposé des réalités qu'on nous a enseignées aujourd'hui. Alors qu'aujourd'hui, pour pouvoir arriver à une position, il faut un peu la prendre, il faut un peu s'imposer. On peut voir que dans le royaume de Dieu, il faut pouvoir servir pour être élevé. Appliquons le service les uns envers les autres de façon pratique. On a un petit peu vu que la Bible nous demande d'être serviteur, on a vu c'est quoi être un serviteur, on a vu des principes pour pouvoir entrer dans cette attitude de service, et on doit appliquer ces principes les uns envers les autres en premier, dans l'Église. Romains 12, 10, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque. Imaginez que dans nos églises, eh bien, comme je disais, on anticipe les besoins des gens autour de nous avant même qu'ils les expriment. On peut voir un frère ou une sœur dans le besoin et on intervient même avant que le besoin soit exprimé. C'est pas une super preuve d'amour, ça? Je me rappelle très bien, il y a des moments dans ma vie, spécialement récemment, je devais me faire opérer du dos, il y avait un poids financier, même avant que j'ai pu demander à quelqu'un, il est intervenu, il m'a dit, il y a plusieurs personnes, plusieurs groupes. Il est intervenu financièrement par rapport à l'opération, avant même que j'ai pu exprimer le besoin. J'ai pas eu le temps d'avoir peur de ne pas pouvoir payer qu'il y avait de l'argent sur mon compte. C'est pas extraordinaire, ça. C'est quand même formidable. Éphésiens 5, 21, soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte du Christ. Philippiens 2, 3, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Soyons des serviteurs envers les uns les autres, soyons des serviteurs envers ceux qui sont dans le besoin. 1 Jean 3, 17, si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Si moi j'ai tout, mais que la personne à côté de moi elle a rien et qu'on est unis en Christ, alors moi non plus j'ai rien. Acte 9, verset 36, c'est une histoire assez intéressante d'une femme, je vous la lire, c'était Tabitha. Il y avait Jopé parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade dans ces temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lydde près de Jopé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, ils envoyèrent deux hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec les hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on la conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entouraient en pleurant. Ils lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elles étaient avec elle. Pierre fit ressortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis se tournant vers le corps, il dit « Tabitha, lève-toi » Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main, elle la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et leur présenta vivante. Ce fut connu de tout Jopé et beaucoup furent au Seigneur. Je trouve ça une histoire incroyable de quelqu'un qui ressuscite d'entre les morts. Une femme qui a décidé de mener sa vie touchée par l'amour de Christ. Elle décide de pouvoir faire preuve de monde et d'œuvre. Et alors, elle meurt. Et je suis certain, le choc que ça a dû être. Cette femme bonne, qui faisait des œuvres bonnes, elle est décédée, mais c'est pas juste. Pourquoi est-ce qu'elle doit mourir si elle faisait des bonnes choses? Hein? Et là, il y a Dieu qui intervient, qui la ressuscite, et c'est un témoignage énorme pour la région. Ce fut connu de tout Jopé et beaucoup crurent au Seigneur. Donc soyons des serviteurs envers ceux qui sont dans le besoin, envers les uns les autres, et envers ceux qui sont spirituellement malades. Galatiens 6.1. Frère, si un homme vient être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Jacques 5:19-20. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et quelqu'un l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré, sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Amen. Si on va approcher les gens qui vont mal dans une attitude de service, il n'y a pas de trace de jugement en nous. Vous savez, c'est toujours un peu délicat. On voit quelqu'un qui va mal, on voit un frère ou une sœur qui s'est égaré, et on ne sait pas comment intervenir. On ne sait pas si je dis quelque chose, on va croire que je le juge, enfin voilà. Et puis peut-être que cette personne-là, elle a déjà vécu des gens qui l'ont condamné, alors qu'il serait mieux de se taire. Mais si on vient dans une attitude de service, où les besoins que tu as, ils sont plus grands des miens, à aucun moment la personne, elle va se dire « Ah, telle personne, elle me juge ». Non, elle va dire « Ah, cette personne-là, elle m'a apporté de l'amour quand j'étais à terre. » Et ça, j'apprécie. Eh bien, le dernier point que je voudrais faire, c'est avoir cette même attitude de service dans l'évangélisation. Si on a cette attitude de service, on va développer une compassion et un amour naturel, un désir naturel de pouvoir atteindre ceux qui sont perdus, ceux qui ne connaissent pas encore Jésus. Si on applique ces principes de service, on ne sera pas concerné qui a le crédit pour telle personne. Écoute, Pascal, moi j'ai amené telle personne à l'église, et puis Pascal répond, ouais, mais Benjamin, moi je vais prêcher pendant au moins 15 minutes, et moi je réponds, ouais, mais après 15 minutes, moi j'étais avec eux pendant une heure à gauche et à droite pour les encourager, et puis Pascal, oui, mais après moi je les ai baptisés. Beaucoup d'églises, c'est comme ça. Quel crédit pour les âmes qui sont sauvées? Si on est dans cette attitude de service, ça n'a aucune importance. Parce qu'on n'est pas à penser à notre propre besoin, ou à qui a le crédit pourquoi. Pour ceux qui enseignent, la chose qui sera importante, c'est l'âme qui est amenée à Jésus. Moi, j'avais été, j'ai raconté souvent cette histoire, la première personne à qui j'ai parlé de Jésus directement dans les rues, c'était en Budapest, il y a pas mal d'années. Je raconte ça, je crois, aux jeunes hier. Cette personne-là, il y a eu une réunion de rue, le prédicateur de l'évangile a fini de parler de Jésus. Je vois une personne à côté de moi et je sens le Saint-Esprit qui toque à la porte de mon cœur et qui dit « Allez, vas-y, allez ». Bon, je prends mon courage à deux mains, ma voix tremble, je dis « Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ce qui a été dit ?» La personne dit juste « Oui ». Ça fait développer, je sais pas, « Oui quoi ?»« Oui, oui, je veux recevoir Jésus dans mon cœur ». Et puis cette personne-là m'explique qu'on lui avait déjà prêché l'évangile plusieurs fois, mais que c'est la première fois qu'on lui demandait s'il voulait le recevoir dans sa vie. Et là, ça m'a frappé que les gens, ils sont sur un chemin avec Dieu. Ils sont vraiment sur un chemin qui dure plusieurs années avec Dieu. Et peut-être t'as déjà rencontré quelqu'un qui a l'air totalement fermé à l'évangile. Mais peut-être que t'es la première personne qui lui présente Dieu et que tu viens d'ouvrir la possibilité dans sa tête qu'il y a un créateur. Peut-être que c'est la deuxième fois qu'on parle de quelqu'un à Dieu et tu lui dis qu'il n'y a pas seulement un Dieu mais que c'est un Dieu qui s'intéresse à nous. Et ils comprennent qu'il y a un Dieu mais en plus c'est un Dieu qui va avoir une relation avec lui. Et peut-être que ce sera la troisième fois la bonne. Où non seulement il y a ce Dieu qui va avoir une relation avec toi mais qui demande ton avis. Est-ce que tu veux m'inviter dans ton cœur? Et à ce moment-là, la personne, elle dit oui. Ne sous-estimons pas l'impact qu'on peut avoir dans le chemin que Dieu a dans la vie des gens, dans la vie d'une personne. Si on applique ce principe de service, alors on ne s'inquiétera plus de convertir les gens à notre philosophie, à notre profession de christianisme, mais on voudra juste les inviter à Christ. Une légende raconte l'histoire d'un serviteur qui avait trouvé de l'eau absolument pure dans le désert. Vraiment une eau si rafraîchissante, si pure que le serviteur en voulut en ramener à son roi. Le serviteur remplit la bouteille au point qu'il n'a pas pu satisfaire toute sa soif. Il la transporte, il traverse les vallées, les montagnes, et il a toujours cette petite bouteille dans sa petite poche. Il arrive au pied du roi, il la dépose devant lui, mais ce que le serviteur ne savait pas, c'est que l'eau elle était devenue un peu mauvaise et croupie à cause du soleil qui avait frappé dessus, à cause de la qualité de la gourde. Le roi prit l'eau, il l'a bu, et un sentiment, une expression de joie et de régal fut sur son visage. Vraiment, une expression absolument extraordinaire. Ah, merci, elle est vraiment bonne. C'est vraiment rafraîchissant. Et les conseillers du roi posent la question. Le roi, quand la personne est partie, le serviteur s'en va dans la joie, il a accompli la volonté de son maître. Et les conseillers du roi disent, mais l'eau était pas bonne, vous avez menti, je ne comprends pas. Pourquoi avez-vous dit à ce serviteur que l'eau était magnifique? Et le roi dit, c'est pas l'eau que je goûtais, mais c'est l'amour qui l'a amené jusqu'ici. Souvent, notre service va être marqué de nombreuses imperfections, de plein d'imperfections. Mais le maître, Jésus, regarde nos intentions et dit, cela est bon, cela est bien bon et fidèle serviteur. Souvent, notre service, il sera marqué de nombreuses imperfections. Mais Jésus, il veut nous voir arriver à cette attitude de service. Et si on fonce vers lui, peu importe par quel ravin on est passé, peu importe par quel trou la vie nous a menés, ça n'a aucune importance pour Jésus. Parce qu'à la fin, Jésus, il nous tend la main, il nous sort du ravin, et il dit, par ton attitude de service, je t'élève maintenant. Et c'est toi qui vas avoir la victoire sur tes circonstances, parce que tu as su t'abaisser, alors que, aujourd'hui, on veut s'élever. Amen. Que le Seigneur soit béni pour sa parole, je voudrais bien juste prier. Cette attitude de service, c'est quelque chose, une leçon qui ne va pas durer juste une fois un dimanche, mais ça va durer toute notre vie. Il y a beaucoup qui a été dit, et j'espère que ça pourra nourrir nos cœurs. Père Céleste, je veux te remercier pour ta parole qui éclaire nos sentiers. Je te remercie parce que tu nous expliques les vérités spirituelles du monde, Jésus, pour les vérités spirituelles. Seigneur, viens nous faire rendre compte que lorsqu'on sert les gens, lorsqu'on investit dans les gens autour de nous, lorsqu'on refuse de nourrir notre chair, eh bien, on gagne des trésors au ciel, Seigneur. On gagne des trésors dans ton royaume qui se réalise déjà aujourd'hui. Seigneur, viens nous faire des clins d'œil, Seigneur, quand on sert les gens. Viens nous faire des clins d'œil pour nous montrer qu'on est sur la bonne voie, pour nous montrer qu'on va dans la bonne direction.